Bah, figurez-vous que Jean-Luc parle de petits troupeaux et moi j'avais reçu pendant le culte de vous dire ne crains pas petit troupeau. Et puis mais ça ne concerne pas ce que je vais dire après, hein, mais le Seigneur l'a mis sur mon cœur, que il y a quelques textes qui sont absolument pour vous. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. C'est pas le nombre qui compte. Et je voulais aussi vous lire un autre passage qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, que j'aime beaucoup. Ça se trouve au chapitre 9. Et ce texte dit ceci: J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait dans une petite ville peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et voyez, vous êtes un peu comme cet homme pauvre. À chaque fois que nous venons, Véronique ici et moi, eh bien, nous sommes heureux. Et je peux vous le dire vraiment, parce qu'on sent la présence de Dieu. Et si le Seigneur vous a placé ici, c'est pas pour rien. Parce que c'est la lampe de Dieu au milieu de cette ville. Et c'est la lampe de Dieu. C'est lui qui la tient allumée et elle éclaire. Et surtout, elle empêche aussi beaucoup de désordre. Parce que le sel de la terre empêche de pourrir. Donc votre simple présence, même sans rien faire à la limite, est utile. Mais si en plus il y a les cours alpha et d'autres choses, alors la terre est bénie. Et je voulais vous dire ça pour vous encourager. La présence de Dieu est ici, c'est pas le nombre qui compte. Vous savez, nous on va de temps en temps dans d'autres assemblées où il y a du monde, etc. Mais où le Seigneur y est dehors. Quelquefois on va dans des assemblées où c'est boum 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 tralala. On chauffe Marcel, comme on dit, mais le Seigneur il est dehors. Ici il est dedans. C'est pas pareil. Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer. Alors, tu as parlé aussi de fiancée. Et je vais vous parler d'une fiancée. Vous savez, vous avez certainement tous lu le livre d'Esther. Oui. On va faire comme ça. Est-ce que là, ça va mieux? C'est une question de tuyau. Faut être costaud ici. Hein? Voilà. Alors, le livre d'Esther, vous l'avez sûrement tous lu. Hein? C'est pour ça que ben, vous le relirez peut-être aussi après. Hein? Le livre d'Esther est un livre très particulier. Très particulier. Et les événements qui nous parlent de l'histoire d'Esther, vous m'arrêterez quand vous en aurez assez. Hein? Parce que j'ai pas l'heure devant moi, donc vous faites des grands cris en disant ça y est, le poulet il est cuit, etc. Hein? Non, j'ai du mal à suivre l'heure quand je parle, alors c'est pour ça qu'il faut me taper dessus. Oui, les événements du livre d'Esther. Si vous prenez le livre d'Esdras, au chapitre 6, au chapitre 6, on parle du roi Darius, qui fait l'édit de Darius. Il y a eu l'édit de Cyrus, puis après il y a l'édit de Darius. Parce que vous savez qu'à l'époque, les Juifs sont rentrés à Jérusalem, et puis ils ont rebâti le temple, mais pour rebâtir le temple, il y a eu une panne de 16 ans. Et puis à un moment donné, Darius fait un édit pour dire « reprenez le travail ». Et puis, ça c'est le chapitre 6. Et au chapitre 7 d'Esdras, on parle d'un autre roi. Et il est écrit « après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse ». Donc vous voyez, on passe du roi Darius au roi Artaxerxès. Eh bien, figurez-vous qu'entre ces deux rois-là, il y en a un autre. Et le roi qui est entre deux, il s'appelle Xerxès. Et il a un autre nom, et c'est Assuérus. C'est-à-dire, c'est le roi dont on parle dans le livre d'Esther. Donc, le livre d'Esther, vous pouvez le mettre entre ces deux chapitres-là, si vous voulez. D'accord ? C'est pour situer un petit peu le paysage. Alors, c'est donc qu'on se trouve dans le deuxième royaume du livre de Daniel. Vous savez que dans le livre de Daniel, il y a quatre royaumes. Et là, on est dans le deuxième, c'est-à-dire le royaume de Perse. Bon, il y a énormément de Juifs qui sont rentrés à Jérusalem. Ils ont rebâti le temple. Ils se réjouissent avec Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui sont restés en Babylonie, en Perse. Il y en a beaucoup qui sont restés. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés? Eh ben parce qu'ils ont monté des affaires, ils ont trafiqué, ils ont fait des magasins, etc., etc. Un petit peu, si vous voulez, comme les Juifs qui sont encore en France ou aux États-Unis, qui n'ont pas envie de rentrer, ben parce que leurs affaires sont prospères. Tout simplement. Hein? Et puis il y en a d'autres qui sont restés aussi parce qu'ils avaient une place importante dans le gouvernement. Par exemple Daniel. Daniel n'est jamais rentré. Il est toujours resté là-bas. Hein? Il y a aussi Esdras et Néhémie qui avaient une place importante, qui ont fini par rentrer, mais ils avaient une place importante dans le gouvernement. Et puis, il y a encore un autre personnage qui a une place très importante et qui va rester là-bas. Il s'appelle Mardoché. Et on voit que le peuple juif, c'est-à-dire Judas et Benjamin. Juif, c'est Judas plus Benjamin. Les autres, hébreux, se sont perdus. Ce sont les dix tribus perdues. Qu'on retrouvera à la fin. Mais pour le moment, elles sont perdues. Et à un moment donné, d'ailleurs, dans la Bible, on nous dit, mais d'où viennent tous ceux-là? Oh, on les avait perdus. Mais on va les retrouver. Gloire à Dieu. En tout cas, ce peuple juif de l'époque, il est divisé en deux. Il y a une partie qui rentre à Jérusalem et l'autre partie qui restait là-bas, en Perse. Et le livre d'Esther parle des Juifs qui sont restés en Perse. Voilà. Et ce peuple-là, il s'est tellement, on va dire, éloigné de Dieu, que dans le livre d'Esther, on ne parle pas de Dieu. C'est le seul livre de la Bible où on ne parle pas de Dieu. Il n'y a pas de fête. Il n'y a rien de tout ça. On ne parle plus des lois de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment très étrange. C'est comme la nuit pour ces gens-là, une nuit spirituelle. Et du point de vue religieux, les Perses, eux, par contre, ils étaient des gens relativement évolués. Bien sûr, c'était des gens qui avaient des idoles, mais c'était assez fin. Ils avaient entre autres un dieu suprême qui s'appelait Hormuz, c'était le dieu du bien. Et puis il y avait un dieu du mal qui s'appelait Ahriman, qui était d'égale puissance, mais dans leur histoire, eh bien, ce dieu du mal, à la fin, il ne triomphait pas. Et au milieu de tout ça, Dieu veille sur ce peuple juif qui est là. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors, il y a un secret dans ce livre. Parce qu'on peut lire ce livre comme un livre d'histoire. Après tout, c'est arrivé, et puis on pourrait lire ça comme un livre d'histoire. Mais on peut aussi le lire comme un livre prophétique. Et c'est sous cet aspect-là que je voudrais vous en parler. Surtout à la suite de ce que notre frère a dit la semaine dernière. Les Juifs cachés. Et vous allez voir que dans le livre d'Esther, il y a un trésor. Alors voilà, au premier chapitre, je vais balayer les chapitres rapidement comme ça pour vous raconter. Moi j'avais intitulé cette étude « L'édit de mort d'Assuérus ». Et je vous parlerai après de l'édit de mort moderne. Puisque c'est une prophétie que je vais vous donner. Et donc il y a un édit de mort pour les Juifs. Et je vais vous en parler. Donc le roi Assuérus, qu'est-ce qu'il est? C'est un roi qui est très riche et qui va faire une fête qui va durer 6 mois. Vous imaginez? Une fête qui va durer 6 mois et qui va lui permettre de rencontrer les 127 gouverneurs de ses régions. Il dirige vraiment un royaume immense, hein, immense. On va dire qu'il est le roi des nations. C'est un roi qui... Pourquoi il réunit ses 127 gouverneurs? Ben parce qu'il va, il va préparer une guerre contre les Grecs. Parce que oui, on va passer tout doucement du deuxième royaume au troisième. Et ça va se faire avec des guerres. Bon, alors c'est un roi qui est orgueilleux. C'est un roi qui est faible parce qu'il se fait manipuler par son entourage. Hein? Mais c'est un monarque qui est élevé au rang divin parce qu'il dispose entre autres du droit de grâce. Et il a un sceptre d'or et quand il touche quelqu'un, ce quelqu'un est gracié avec. C'est un droit de vie ou de mort. Il est comme Dieu. Hein? Alors, comme c'est le chef du deuxième royaume de la prophétie de Daniel, eh bien, il représente, si vous voulez, l'autorité de Dieu, parce que tout vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, vous le savez. Et Assuérus, en quelque sorte, usurpe la place de Dieu, c'est un type de la puissance de Dieu sur terre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et puis, il a une reine qui s'appelle Vashti. Vashti, ça veut dire belle. Donc, ça devait être une belle femme. Et maintenant, on va rentrer, si vous voulez, vous allez symboliquement imaginer la chose suivante. On se retrouve après l'enlèvement de l'église, de l'épouse. On se retrouve après. L'épouse, elle s'est envolée. Et on se retrouve à une période où sur terre, il reste l'église prostituée. Et le roi des nations. Cette épouse prostituée, ici, elle s'appelle Vashti. Elle est belle. C'est son nom. Elle est belle. Et le roi des nations lui dit... Le septième jour, pendant la fête, le roi avait bien bu, il ordonna à 7 de ses eunuques, parce qu'il y avait beaucoup d'eunuques dans ces pays-là, d'aller chercher la reine pour la montrer et montrer sa beauté au peuple et aux grands des nations. Elle était belle. Mais, la reine Vashti refusa de venir. Alors évidemment, le roi est très irrité. Il est en colère. Et son entourage lui parle et lui dit, si le roi le trouve bon, que l'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre reine qui sera meilleure qu'elle. Et donc, Vashti est accusée de porter atteinte au bon fonctionnement de l'État et de faire un acte de rébellion. Eh bien, ça, voyez-vous, c'est la prostituée qui se fait rejeter. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas vous imaginer autre chose, la prostituée, c'est-à-dire l'Église qui se croira reine, elle sera rejetée, elle sera dévorée, et on n'en parlera plus. Et on se trouve dans cette période de 7 ans, après l'enlèvement, où cette reine est rejetée, l'Église prostituée, rejetée, et où Dieu va choisir une nouvelle reine destinée à gouverner le monde. Et cette nouvelle reine, ça va être une reine juive. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transition qui va se faire, et ça va se faire en cachette, où Dieu va se choisir dans le peuple juif des enfants qu'il va préparer. Parce que quand le Seigneur va revenir, il est dit qu'il revient comme un éclair. Aussitôt après, il y a le jugement des nations. Et aussitôt après, Jésus installe son royaume. Nous, nous aurons été enlevés. Nous reviendrons avec lui, mais nous serons comme lui à traverser les murs, etc., etc. Mais sur terre, chers amis, il restera les Juifs destiné à gouverner le monde et destiné à apporter la bonne parole au monde. Et Dieu va préparer cette épouse-là. Et l'épouse dont on parle dans le livre d'Esther, d'un point de vue prophétique, c'est cette épouse juive. Alors, Esther, elle avait un autre nom. Avant qu'on l'appelle Esther, elle s'appelait Hadassa. Et Hadassa, ça veut dire dissimuler. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle est. Et comme disait le frère la semaine dernière, il y a des gens, ils sont juifs, ils ne savent pas. Et ils vont le découvrir tout d'un coup. Il y en a d'autres, ils le savent. Mais ils vont découvrir le Seigneur en cachette. Et il y a aussi des juifs qui cachent qu'ils ont déjà découvert Jésus. Et Jésus prépare comme ça. Alors, qui c'est cette Esther? Esther, ça veut dire étoile, hein? L'étoile, étoile juive. Hein? Ben oui. Et pourquoi elle est jaune? Ça, c'est à cause des Arabes. C'est à cause d'Omar, vous savez, ça remonte loin ça. Omar qui voulait soumettre les juifs et les chrétiens, il avait donné l'ordre aux chrétiens et aux juifs en particulier de s'habiller en jaune pour qu'on puisse les distinguer. Donc c'est une vieille histoire cette affaire, mais bon, je passe. Hein? Est-ce une orpheline? C'est une orpheline. Elle a été élevée par son cousin, Mardoché. Ben oui, elle est orpheline. Et de ce fait-là, il y a un lien d'amour qui s'est créé entre Mardoché et elle. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Et quand Mardoché dit quelque chose, elle obéit. Alors imaginez, chers amis, que Mardoché, ça soit Jésus. Et voilà les Juifs, quelques Juifs, qui ont découvert Jésus en cachette. En cachette. Esther ne fit connaître ni à son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Ils habitaient dans une région où les Juifs se cachaient, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient honte. Et nous sommes un peu dans cet état-là. Vous verrez que de plus en plus, les Juifs vont se cacher, changer de nom, vivre comme tout le monde, etc. Mais il y en a qui sont touchés par le Seigneur et qui vont obéir à Mardoché, à Jésus. en douce. Mais évidemment, tout ce que Mardoché va lui demander est assez dur pour elle, hein, parce que Mardoché va, vous savez que comme le roi cherche une nouvelle reine, il va demander qu'on cherche dans tout le pays des jeunes filles vierges, et puis, ben, Mardoché va lui dire, toi, tu vas y aller. Alors vous imaginez pour une juive, quand elle se marie, ça doit être absolument un mariage d'amour, volontaire. Mais là, elle le fait par obéissance à Jésus. Par obéissance. Et seulement après, l'amour va venir. Alors, Esther obéit et elle donne foi à des paroles qui sont prononcées par cet homme qui est Mardoché et qui est son père adoptif et qui est vraiment une image de Jésus. Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les jeunes filles. Mais le roi, vous savez, il ne sait pas qu'elle est juive. Personne ne sait qu'elle est juive, sauf elle et Mardoché. Elle est cachée. Et qui est Mardoché, lui ? Eh bien, Mardoché, c'était un descendant, vraisemblablement, c'était un benjamite, vraisemblablement descendant de Saül. Et puis, un jour, apparaît un homme. Il nous est dit qu'il y a la destitution de l'épouse infidèle, donc vous imaginez pendant les 7 ans, hein, l'épouse infidèle dégagée. Pff, on n'a plus besoin de toi, dégage. Il est dit que ses chairs sont mangées. Elle est mangée. Elle est détruite. L'épouse infidèle, hein. Après ces choses, il est dit, après ces choses, il y a l'épouse juive qui vient. Mais personne ne sait qu'elle est juive. Et puis, il est dit encore, après ces choses, apparaît alors l'ennemi héréditaire des Juifs. Qui est cet homme ? Cet homme, il s'appelle Aman. On peut dire Aman, je ne sais pas comment ça se prononce. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agadite. Il l'éleva en dignité, plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc subitement, arrive en haut du gouvernement, cet homme. Parce que le roi des nations l'a décidé. Qui c'est cet homme ? Eh bien, quand on dit l'Agadite, Agadite, c'était le titre des rois d'Amalek. Amalek, vous rappelez d'Amalek ? C'est l'ennemi héréditaire des Juifs. C'est celui qui a toujours voulu détruire les Juifs gratuitement. Et il est dit qu'il y a guerre contre lui d'éternité en éternité, toujours. C'est-à-dire que de génération en génération, on voit réapparaître dans le monde des hommes qui sont décidés à détruire les Juifs. On a connu Hitler, on a maintenant celui qui est en Iran, etc., hein, qui sont décidés à détruire les Juifs. C'est une image d'Amalek. Bon, alors, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi. Mais Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Et Mardoché, c'était pas n'importe qui. Mardoché, il nous est dit qu'il était à la porte du roi. Quelqu'un qui est à la porte du roi, c'est quelqu'un qui a une position importante dans le gouvernement. Donc c'était quelqu'un d'important, Mardoché. Et personne ne savait qu'il était juif. Mais à partir du moment où il n'a pas fléchi le genou devant Aman, eh bien, tous ceux qui étaient avec lui et qui étaient autour de lui se demandaient pourquoi. Et il a fini par leur dire qu'il était juif. Il a fini par leur dire qu'il était juif. C'est comme ça qu'il a annoncé à son entourage qu'il était juif. Et alors, Haman, quand il apprend qu'il est juif, aïe, 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 évidemment, hein, vous imaginez. Mais il nous est dit qu'il ne dédaigna, il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulait détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs. Vous imaginez. Haman, c'est un être méchant, bien sûr, comme Hitler, vous imaginez, hein, c'est facile à se représenter, hein, on a eu des figures devant nous. Hein. Et en même temps, il est superstitieux, parce qu'il va jeter le sort, pendant toute une année d'ailleurs, il jette le sort. Donc il est superstitieux, comme Hitler d'ailleurs, hein, la croix gammée, elle vient des Indes. Hein. Il était superstitieux, il y avait des démons quand même derrière tout ça, hein. Mais par exemple, vous voyez, Vashti, elle s'est révoltée la troisième année du roi Assuérus. Esther, elle devient reine la septième année. Il y a des chiffres comme ça. Et puis, Haman va influencer le roi et il va faire un décret de mort comme quoi la douzième année du roi, au douzième mois, et à un certain jour très précis, tous les juifs devront être mis à mort. On se trouve dans les 7 ans, hein? On se trouve dans les 7 ans. Et le roi est complètement indifférent à ça. Il dit, fais ce qui semble bon à tes yeux. Ça veut dire qu'on va être dans une période, frères et sœurs, où l'Antichrist fera ce qu'il voudra. Fais ce qui semble bon à tes yeux. Et ce qui semble bon à ses yeux, c'est de détruire les Juifs. Alors il y a un édit qui est envoyé à travers tout le pays. Je ne vais pas vous le lire, vous irez le lire. Hein, mais c'est un édit qui déclare que tel jour, tout le monde doit s'y mettre pour tuer les Juifs. En un jour. Et quant aux Juifs, frères et sœurs, ils rentrent dans une angoisse incroyable. Ils savent que dans un an, ils vont être mis à mort. Imaginez, actuellement, celui qui dirige l'Iran, il est en train de s'armer. Personne ne fait rien pour l'empêcher. Et à un moment donné, il va dire... Dans 6 mois, je détruis Israël. Et personne ne dira rien. Vous verrez. Et donc, les Juifs, ils rentrent dans une angoisse extraordinaire. Et là, on a une image, si vous voulez, de la grande tribulation. Le ciel est fermé. C'est une sentence de mort qui est irrévocable. Parce que le roi a donné son cachet. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il fait Mardoché? Il prend le sac et la cendre et il parcourt la ville en pleurant et en criant. Et là, je voudrais vous relire un autre texte. Je voudrais vous lire un autre texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Vous savez, on a bien sûr dans le livre d'Ézéchiel, il y a la prophétie d'Ézéchiel 37 des ossements. Alors pour le moment, il y a les os et la chair, il n'y a pas encore l'esprit. Mais je vais vous lire ici Ésaïe au chapitre 26, le verset 19 et suivant, qui dit « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera jour aux ombres. » Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Donc pendant un temps, Dieu demande aux Juifs de se cacher. Ils se cacheront. Et peut-être un jour je vous expliquerai où ils iront se cacher, c'est dans les montagnes de Séhir. Parce que là il y a des grottes qui sont préparées, où on peut cacher 200 000 personnes. Et c'est la grande tribulation. Quant à Esther, quand elle apprend ça, comme elle est reine, vous savez, les rois, ils ne savent pas toujours ce qui se passe dans le peuple. Alors, elle a besoin de savoir. Et elle a un eunuque qui porte un nom très particulier, il s'appelle Attac. C'est pas les magasins Attac, hein. Ça s'écrit H-A-T-H-A-C, Attac, et ça veut dire vérité. Donc elle demande à cet eunuque vérité d'aller chercher ce qui se passe. Elle veut comprendre. Et vérité va trouver Mardoché. Et Mardoché lui donne l'édit de mort et lui dit voilà ce qui se passe. Alors Esther, elle comprend ce qui se passe. Et comme elle est juive et qu'elle le sait, elle sait très bien que son sort est lié à ça. Et qu'elle va y passer aussi. Et c'est à ce moment-là que Mardoché lui dit « Tu vas aller trouver le roi. » Et il lui dit « Tu le sais, mais si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Il a la foi, Mardoché. Et toi et ta maison et ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voyez comment Dieu fait. Il a préparé en douce un certain nombre de Juifs qui sont montés dans les hauteurs du gouvernement et qui sont en cachette chrétiens et qui vont parler. Alors comment ils vont faire ? Il faut qu'Esther se fasse connaître. On est dans la période de la grande tribulation. Les Juifs ont peur. Alors elle met sa robe de reine. Et le troisième jour, il nous est dit, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône, en face de l'entrée de sa maison. Elle se présente devant le roi en sachant que si le roi ne tend pas son sceptre, elle sera mise à mort. Mais que si le roi tend son sceptre, elle sera sauvée et elle pourra demander quelque chose au roi. Donc elle agit par la foi sur ordre de Jésus. Voyez, par la foi. Inutile de dire qu'elle devait aussi avoir les chocottes. Et il nous est dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et la toucha du bout du sceptre. Et alors, là, Esther, elle va être très prudente. Elle va être très prudente et elle va pas tout de suite dire qu'elle est juive. Parce que Aman est toujours là. Il est le premier ministre, on va dire, ou il est le chef du gouvernement, et il y a toujours le décret qui court. Et pour arriver à faire changer les choses, il va y avoir prudence. Il faut que Aman soit dévoilé. Et il faut que Aman fasse le mal jusqu'au bout, parce que Dieu ne juge jamais avant que la coupe soit pleine. Eh oui. Rappelez-vous, il a fallu 400 ans pour que les Cananéens soient jugés. Attendre 400 ans, et pendant ce temps-là, les autres, ils étaient en Égypte. Donc là, il faut attendre que Aman fasse tout le mal qu'il doit faire. Alors, Esther va organiser des repas de fête, et elle va inviter le roi et Aman. Alors, vous pensez que Aman, il est content, hein? Il est invité au repas de la reine, il est enchanté. Seulement, en sortant du repas, qu'est-ce qu'il trouve ? Mardoché. Et Mardoché, il fléchit pas le genou. Alors, il est dans une colère, Aman. Et c'est comme ça qu'il dit, je vais faire une potence. Et demain, on pend Mardoché à la potence. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il sait pas, c'est que demain, il y a encore un repas avec Esther. Et ce qu'il sait pas, et ça c'est la main de Dieu, c'est extraordinaire, comment Dieu va veiller pendant ces 7 ans, chers amis. Comment Dieu va veiller sur son peuple. Cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Vous voyez, pour ceux qui ont des insomnies, il y a des insomnies qui sont créées par le Seigneur, hein. Cette nuit-là, il n'arrive pas à dormir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre un bouquin. Et ce bouquin, c'est quoi ? Ben, c'est l'histoire du peuple perse. Tout ce qui s'est passé, comme le journal, si vous voulez. Ça s'appelle les chroniques. Et dans le journal, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a un homme qui s'appelle Mardoché, qui un jour lui a sauvé la vie. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient l'assassiner. Et Mardoché avait trouvé le complot. Il avait prévenu Esther qui avait prévenu le roi. Et les gens du complot avaient été exécutés. Et c'était écrit dans les chroniques. Donc le roi se rappelle de tout le bien que ce peuple a fait. Le peuple juif. Tout le bien que le peuple juif a fait sur la terre. Et Dieu sait que le peuple juif a beaucoup apporté par son intelligence. Beaucoup. Et le roi s'en rappelle. Et arrive le matin, et Aman est tout content, il va trouver le roi. Et le roi lui dit, Aman, à ton avis, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu devais honorer quelqu'un ? Alors Aman dit, ben moi je lui mettrai un manteau de roi, je le mettrai sur un cheval, je le promènerai dans la ville, etc. Parce qu'il pensait que c'était pour lui. Il est tout content, hein. Et évidemment, à ce moment-là, le roi lui dit, ben écoute, tu vas faire ça avec Mardoché. Et on voit Aman qui est humilié dans sa tête, la honte. Humilié et qui est obligé de promener dans la gloire Mardoché à travers la ville. Et la femme de Aman lui dit, tu vois, tu as commencé à plier devant Mardoché. Et elle lui dit, si Mardoché est un juif, alors tu ne perdras tout. Comment les paroles comme ça qui sortent? Sa femme, elle s'appelait Zérek. Zérek, ça veut dire étoile d'adoration. Il devait l'adorer, sa femme. Il y a des femmes comme ça qu'on adore. Hein. Il y a des gens étranges, hein, quand même, sur Terre. Bon. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Donc elle sait des choses, cette femme. Alors, arrive encore un festin, et là, Esther fait connaître au roi qu'elle est juive. Et ça va faire la troisième fois que le roi lui dit, si tu me demandes même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. 3 fois. Eh bien, quand le roi dit les choses 3 fois, on ne revient plus dessus. Il donne la moitié de son royaume. Il va donner le gouvernement à Esther. Et Esther lui dit, voilà, je suis juive. Et mon peuple va être détruit. Et le roi dit, mais qui a décidé ça? C'est Aman, ce méchant homme. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Esther dit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que le roi, il va se mettre dans une colère. Il va sortir de la pièce. Et pendant ce temps-là, Aman, il va se mettre tout près de l'endroit où Esther se trouve, et elle est certainement allongée sur un lit. Et quand le roi va revenir dans la pièce, il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, à Esther? Et il est tout près d'Esther. Pourquoi? Pour la supplier de le laisser en vie. Et vous imaginez, près d'une femme, près d'un lit comme ça. Et le roi est dans une colère. Et alors il y a un eunuque qui est là, tout près. Cet eunuque, il s'appelle Harbona. Ça veut dire guerrier. C'est marrant les noms des eunuques. Hein. Et ce guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre Aman. Et il va le pendre à la potence qui était préparée pour Mardoché. Et donc, Aman est mis à mort. Et il reste une dernière chose à faire, c'est que l'édit de mort soit annulé complètement, parce qu'il courait toujours, hein, même si Aman n'était plus là. Et alors, le roi va tendre le sceptre d'or à Esther, et qui se releva et resta debout devant le roi. Maintenant, elle est debout. Il sait qu'elle est juive. Esther supplie le roi d'abroger l'édit de mort. Et qu'est-ce qui arrive également? C'est que Mardoché va être vêtu d'un vêtement royal, d'une couronne, et que c'est la délivrance du peuple juif le jour où il aurait dû être mis à mort. C'est-à-dire qu'il est arrivé le contraire le jour où il était dit c'est la mort d'Israël. Et le manteau royal, la couronne, c'est Jésus qui revient en gloire. C'est les 7 ans qu'on a là. C'est les 7 ans. Et alors, je voudrais, est-ce que vous avez encore un peu de patience? Je voudrais vous dire, mais là, il faudra... Je voudrais vous parler de quelque chose d'actuel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du protocole des sages de Sion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le protocole des sages de Sion.